Avec Monseigneur Jacques Perrier.
Poursuivons notre présentation des fenêtres hautes de la basilique supérieure, la basilique de l'Immaculée Conception. Depuis le début de cette semaine, j'ai évoqué le Concile de Trente. Remarquez, c'est assez amusant parce que le Concile de Trente dit surtout « on n'en parlera pas ». On va parler du péché originel, de la justification par la foi, de plein de choses, etc. Mais bon, la Sainte Vierge, on laisse de côté. On s'en réfère aux positions des papes antérieurs qui disaient « écoutez, vous pouvez tenir une doctrine ou une autre ». Vous n'avez pas le droit de vous excommunier mutuellement sur ce thème. Et puis, après le Concile de Trente, consacré l'émission d'hier, au vœu de Louis XIII, qui est prononcé solennellement le jour de l'Assomption, et l'engagement, c'est de faire des processions le jour de l'Assomption, mais j'essayais d'expliquer que, ben oui, l'Assomption et l'Immaculée Conception ont quand même, si j'ose dire, partie liée. Alors, la fenêtre d'après, on pourrait dire, elle n'a pas beaucoup plus de rapport avec le dogme. Elle n'a pas beaucoup de rapport avec le dogme, si on veut, mais elle a un rapport personnel, biographique, bon, lui, très très précis. Parce que les vitraux, tout le programme des vitraux de la chapelle, devenue la basilique de l'Immaculée Conception, ont été conçus par un certain chanoine Lambert, qui était chanoine de Paris. Bon. Et il offre ce vitrail pour la guérison de sa sœur. Alors, quand est-ce que la sœur a été guérie? Pour être franc, je ne sais pas. Mais, la fourchette est assez étroite, puisque, bon, quand même, la basilique, elle s'achève 1870, 71, 72, dans ces années-là, bon. Et les vitraux sont posés en 1877. Donc, ça doit être dans ce créneau, sans doute. Elle a peut-être même été guérie avant. Alors, le chanoine Lambert était venu à Lourdes assez tôt, puisque on signale, il avait même laissé une trace écrite d'un premier séjour en septembre 1867. Et il avait écrit « Je suis venu ici pour 2 jours, et les charmes du pèlerinage m'y ont retenu 12 jours. Je dois de grandes actions de grâce à Marie ». Donc, il est venu pour 2 jours, il en est resté 12. Et ça, donc, c'était en 1867. Et en 1870, il revient. Et il laisse aussi un écrit, un poème. Bon, c'est quand même assez tôt. Bon, déjà, Lourdes a une certaine ampleur. Mais enfin, le grand pèlerinage qui va lancer vraiment au plan national, c'est ce qu'on a appelé le grand rassemblement d'espérance après la défaite et après la commune, bon, donc 1872. Donc il est venu relativement tôt. Voilà. Alors, donc, cette brave dame, j'ose dire, a été guérie. Et alors, le vitrail, nous la représente, alors est sur son lit, bon, évidemment, les choses vont mal. Bon, et elle supplie l'Immaculée de la guérir, et elle tient en main la médaille, ce qu'on appelait la médaille miraculeuse. Alors, la médaille miraculeuse, vous savez, l'origine, c'est la rue du Bac, c'est les apparitions de la Vierge à Catherine Labouré. Apparitions qui n'ont jamais été ni approuvées ni réprouvées. Il n'y a pas eu de jugement canonique. Inversement, ce que l'apparition a demandé à Catherine a été exécuté, c'est-à-dire de faire réaliser une médaille où il y aurait marqué une invocation à l'Immaculée Conception, mon mari conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et l'archevêque de Paris avait donné immédiatement cette autorisation, et elle a été frappée immédiatement à un nombre considérable d'exemplaires, et comme il y avait une épidémie de choléra à Paris, effectivement, on a lié la guérison d'un bon nombre de ces gens condamnés à mort à l'imposition de la médaille de l'amiral miraculeux, qui a été aussi portée très, 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 très souvent pendant la guerre de 14 par les poilus. Donc, d'où l'expression de miraculeuse. Bon, en fait, l'expression est malheureuse, un peu comme est-ce que l'eau de la grotte est miraculeuse? Bon, Bernadette avait dit, s'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Bon, voilà. Bon, donc, c'est un piège qu'on peut tendre à un chapelain ou à l'évêque du lieu. Est-ce que l'eau est miraculeuse? Vous répondez oui. Vous êtes un magicien, vous n'avez pas la foi vraiment catholique. Vous répondez non, vous êtes un impie. Bon, donc c'est un piège dans lequel il faut essayer de ne pas tomber. Dans ce cas-là, le mieux d'ailleurs, c'est de le prévenir. Bon, voilà. Alors elle prie donc la Vierge en tenant un chapelet et la médaille miraculeuse. Et puis donc on voit sur le vitrail un certain nombre de personnages, dont le chanoine lui-même, bon, c'est normal. Bon. Et puis, on voit aussi une religieuse, comme on dirait une religieuse de Saint-Vincent de Paul, voilà, les filles de la charité. Bon, elle s'appelle Sœur Vincent, et c'était la sœur du donateur. Et le donateur, alors de toutes ses fenêtres, d'ailleurs, voilà, c'est le Gaston de Béarn. Bon, ben oui, donc c'est quelqu'un de la région, et la famille de Béarn a beaucoup, 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 beaucoup fait pour Lourdes. En fait, Lourdes n'a jamais eu d'énormes subventions, si vous voulez, le mécène gigantesque. Bon. Mais on peut dire que pratiquement toutes les œuvres d'art, les sculptures, les vitraux, tout ça, c'est les hôtels, t'es payé par telle famille, telle famille, telle famille. Bon, ça s'est poursuivi jusque au chemin de croix des Espélugues. Chemin de croix des Espélugues. Chaque station a été payée par un diocèse, une hospitalité. Et ça a été la même chose pour le chemin de croix d'Il est malade, qui s'est fait dans les années 2000, où aussi chaque station a été payée par... ça n'a pas coûté au sanctuaire, voilà. Donc voilà, le gros œuvre, c'est par les dons, les cotisations, les choses comme ça, ben, ce que laissent les pèlerins, mais c'est plutôt les ornements enfin, bon, qui ont été... offert. Voilà, donc ce vitrail, alors il est, vous voyez, lié quand même, c'était normal que le chanoine, voyant dans la guérison de sa sœur un bienfait de la Vierge Immaculée, etc., bah, veuille lui rendre hommage par une de ses fenêtres, et donc qui va précéder immédiatement la au fond de l'abside, la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Alors voilà, on peut dire que cette série de droite, qui a commencé à l'Annonciation, elle traverse l'histoire, hein, avec l'histoire ancienne, ensuite la période des Pères de l'Église, le Concile de Trente, le vœu de Louis XIII, et puis bon, la période contemporaine, on peut dire, bah, après tout d'ailleurs... cette fenêtre haute, elle correspond à des fenêtres basses, parce que dans les fenêtres basses, qui commencent donc évidemment par les premières apparitions, ça fait tout le tour des apparitions, mais ça continue. Et sur le côté droit, en revenant, ce sont déjà les premières guérisons dites, et aussi miraculeuses. Voilà, à demain, alors pour le dogme lui-même.